Il est 7h.
Qu'est-ce que l'État peut faire pour accompagner les maires? Les maires sont responsables. Donc, dans les zones vertes, on va ouvrir la voie.
Des maires impatients de connaître les décisions gouvernementales sur les conditions du déconfinement. Édouard Philippe les détails cet après-midi. Presque 2 mois que la France est à l'arrêt. Et si finalement on avait pu éviter le confinement, nous appellerons le professeur Jean-François Toussaint qui estime que masques et gestes barrières sont encore plus importants. Comment traiter les déchets médicaux? Ils ont quasiment doublé depuis le début de la crise. Les sociétés spécialisées tournent à plein régime.
Ça a été une explosion. On a doublé les fréquences de collecte. Là où on tournait 6 jours en 2 équipes. Là, on est passé 7 jours sur 7 et en 3-8.
Le chômage partiel concerne désormais plus de 12 millions de salariés, mais certains risquent à terme de perdre leur emploi. Des plans de licenciement en vue, ce sera l'éclairage éco de Nicolas Barré. Et puis la gestion des transports aux heures de pointe s'annonce pour le moins compliquée. De nombreuses entreprises s'arrangent pour étaler les horaires.
Ça peut être un salarié qui veut éviter d'être trop en contact dans les transports et donc qui décide d'arriver à 6h et puis qui repart à 15h de l'après-midi.
Votre invité à 7h40, Mathieu.
Justement, avec l'école, c'est la problématique majeure du retour au travail lundi. Les transports entre les voyageurs et distanciation sociale, le réseau va-t-il tenir? Stéphane Baudet, vice-président du Conseil régional d'Île-de-France, chargé des transports et des mobilités durables. À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. Il répondra à vos questions jusqu'à 8h45. Inscrivez-vous déjà au 39-21. 7h02 sur Europe 1. Un très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Il y a fort à parier que vous serez nombreux à écouter ou à regarder le Premier ministre. Cet après-midi à 16h, Édouard Philippe doit annoncer les conditions du déconfinement pour les écoles, les transports, les entreprises ou encore pour les déplacements dans un rayon de 100 km. Moment très attendu aussi par les maires qui veulent des directions claires. Justin Morin a joint plusieurs d'entre eux.
J'attends que ce soit un plan qui permette un maximum de liberté.
Dans le Cantal, où vit Christian Montin, maire de Marcolès, le coronavirus a tué 7 personnes. C'est 7 de trop pour le président des maires du département, mais enfin, la vague n'est jamais vraiment arrivée. Maintenant, le retour à la vie doit vite se négocier point par point avec le préfet.
Sur le terrain, nous allons essayer de l'appliquer en permettant un maximum de choses avec la limite de la sécurité sanitaire des populations.
Les maires trouvent déjà des compromis pour grappiller des libertés. En Lozère, la préfecture a accepté la réouverture de quelques librairies. Sur l'île d'Oléron, l'accès aux jardins ouvriers est toléré. Des dérogations délivrées sans bruit, en bonne intelligence. Pour l'accès aux plages ou la réouverture plus rapide des cafés, tout se décide à Paris. Les maires le savent bien, mais ça ne les empêche pas de mettre la pression. Le député La République En Marche, Patrick Vignal, a signé une tribune en ce sens avec d'autres élus.
Moi, je veux inverser la vapeur. Qu'est-ce que l'État peut faire pour accompagner les maires? Les maires sont responsables. Donc, dans les zones vertes, on va ouvrir la voie.
Mais le sur-mesure a ses limites. Un maire charentais souhaite autoriser par arrêté l'accès à la plage dès le 11 mai. La préfecture n'hésitera pas à l'attaquer au tribunal administratif.
Et c'est aussi ce soir que la carte de France de la circulation du virus et de la tension dans les hôpitaux deviendra définitive avec uniquement 2 couleurs, rouge ou vert. Hier soir, 27 départements étaient encore classés rouge en métropole, dans le Nord-Est et en Île-de-France. Nos vies devraient commencer à changer à partir de lundi avec une nouvelle étape fixée le 2 juin qui pourrait permettre, si les conditions sont réunies, d'amplifier le déconfinement. Reste à savoir si ces 2 mois d'enfermement ont vraiment été utiles pour freiner la contamination.
Bonjour professeur Jean-François Toussaint.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'IRMES, c'est un institut d'épidémiologie. Et ce matin, quand on écoute votre discours, vous semblez nous dire que, confinement ou non, on en serait au même bilan aujourd'hui.
Eh bien, ce que l'on voit effectivement dans le monde, c'est qu'il y a eu plusieurs façons de répondre à cette crise, dans la difficulté et dans l'incertitude qui était celle du mois de février. Un grand nombre de pays ont opté pour le confinement. Certains ne l'ont pas fait. Ça a été le cas de la Corée très tôt. Ça a été le cas également de la Suède en Europe, des Pays-Bas et à un moindre degré l'Allemagne qui s'est comparé et qui a pris une stratégie comparable à celle de la Corée du Sud. Et ce que l'on voit, en particulier en Europe, où on a une grande confiance dans les données, c'est que le résultat, finalement, au moment où tous les pays ont passé le pic, c'est-à-dire qu'ils sont un peu en dessous de la moitié de l'ensemble de la vague, c'est que ces 3 pays, Pays-Bas, Allemagne, Suède, ont le même résultat en moyenne que les autres pays européens qui avaient confiné de façon stricte. Donc on sait qu'il y a des mesures qui ont un très gros impact et qui marchent extraordinairement bien. Ce sont les gestes barrières. Jean Castex l'a rappelé rappelé hier matin au Sénat, les gestes barrières, les masques et la distanciation. Le confinement, il y a une grande question scientifique actuellement.
Si on vous écoute, Jean-François Toussaint, on a confiné parce qu'on n'avait pas assez de masques ?
Alors cette partie-là n'a pas été la même réponse dans tous les pays. Certains manquaient d'équipements de cette nature, d'autres ont choisi alors que l'équipement était là. Ce qui est certain, c'est que les masques, eux, sont l'effet le plus important lorsqu'ils ont les normes et les certifications qui permettent de couper ces chaînes de transmission.
Et Jean-François Toussaint, si on vous laisse, vous, les scientifiques, de côté un tout petit instant avec une prévision haute qui allait de 300 à 500 000 morts en France. 300 à 500 000 morts. Est-ce que, franchement, c'était politiquement tenable de faire autrement que le confinement ?
La grande difficulté a été de s'adapter à cette trajectoire qui a dévié très tôt des hypothèses les plus pessimistes. Et on a vu ces éléments-là et la difficulté à se remettre face à une situation qui n'était pas celle que Neil Ferguson et l'ensemble de ceux qui avaient mis ces projections pessimistes au départ montrer aurait dû permettre une adaptation plus rapide. C'est le cas maintenant, il faut qu'on puisse déconfiner et on voit que l'Allemagne, par exemple, accélère son déconfinement à côté de nous avec une stratégie qui, elle, tient compte de cette réalité.
Merci professeur Jean-François Toussaint, merci d'avoir été l'invité en direct ce matin dans le journal de 7h d'Europe 1.
Fin décembre, on pensait que la Chine était le seul pays touché par le coronavirus et pourtant, on sait maintenant qu'à ce moment-là, un Français était déjà malade.
Les équipes de l'hôpital Avicenne de Bobigny ont repris les analyses de plusieurs patients atteints de pneumonie. Résultat, Amirou Chamar, 53 ans, souffrait bien du Covid-19. Aujourd'hui guéri, il témoigne.
Il y a une quinzaine de jours, docteur Yves Cohen il m'a appelé. Il m'a dit, on est revenu en arrière un peu sur les patients. Et là, on a trouvé vos examens que vous étiez positif au Covid-19. J'ai dit, comment ça se fait? J'ai dit, au mois de décembre, ça n'existe pas, le coronavirus en France. Il m'a dit, malheureusement, si, et vous étiez positif en ce moment-là. Il m'a dit, est-ce que vous êtes voyagé en Chine ou bien dans les pays asiatiques ces derniers temps? J'ai dit non. Mais après, je lui ai dit, voilà, comme ma femme travaille à Carrefour, pas loin de Charles de Gaulle, il y a des touristes qui viennent faire les courses là-bas. Et à cette époque-là, les aéroports sont ouverts, tout est ouvert, la vie était normale. Le pire, c'est qu'à cette époque-là, les médecins ne connaissent pas cette maladie, on ne parle pas. Vous imaginez, j'ai échappé belle, j'ai échappé à quelque chose de très dangereux, quoi.
Un témoignage recueilli par Hélène Terzian.
7h08 sur Europe 1. Depuis le début de cette crise, les déchets médicaux ont quasiment doublé. Blouses, charlottes, masques, gants ou compresses, impossible évidemment de les stocker. Les usines de traitement et d'incinération doivent s'adapter.
Oui, et c'est un immense défi sanitaire. Théo Manval, jamais les professionnels du secteur n'avaient vu de telles quantités à détruire.
Oui, à Nancy, on est passé de 70 à 130 tonnes par semaine, 130 tonnes par jour. Pour toute l'Île-de-France, trois fois plus de containers à évacuer de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Des containers spéciaux qui doivent être incinérés rapidement à plus de 1000 degrés. Et les centres d'incinération se retrouvent débordés. Marc-Antoine Belté est directeur du développement chez Veolia.
Ça a été une explosion. On a doublé les fréquences de collecte. On a accéléré les cadences sur les lignes de traitement. Là, on tournait 6 jours en 2 équipes. Là, on est passé 7 jours sur 7 et en 3-8. Pour faire tout ça, il faut plus de monde, donc on a renforcé aussi les équipes à peu près de 50%.
Et face à la saturation, les sociétés de collecte ont même dû créer des navettes pour évacuer les déchets d'Île-de-France vers Nantes, Blois ou Le Mans. Autre problème, dans certains hôpitaux, le volume est tel qu'il n'est parfois plus possible de bien fermer les conteneurs. Et là, danger pour les conducteurs des camions qui les récupèrent, explique Sylvain Camessa, délégué CFDT chez Proserve Dasry, le leader du secteur.
La conscience professionnelle parfois fait que les bacs qui n'étaient pas fermés ont été quand même collectés en contact direct avec ces déchets. Le risque, c'est la contamination. On a fait des efforts pour servir les hôpitaux.
Des hôpitaux pour lesquels le Covid augmente enfin l'addition jusqu'au bout, puisqu'ils vont devoir payer la facture de ces déchets supplémentaires à évacuer. Pour certains, l'addition a déjà augmenté de 50% le mois dernier.
Théo Manval. Muriel Pénicaud le disait hier matin sur Europe 1, elle espère que le chômage partiel a atteint un palier et qu'on va assister à une décrue.
Bonjour Nicolas Barré.
Bonjour Mathieu.
C'est votre éclairage éco ce matin. Un chômage partiel qui risque de déboucher sur des licenciements massifs dans les semaines et les mois qui viennent. C'est la grande crainte au sommet de l'État et dans les entreprises.
Oui, vous savez en effet que face à la chute d'activité, donc les entreprises françaises ont déposé des demandes de chômage partiel pour 12 millions de salariés. Ça donne une idée quand même du trou d'activité auquel elles s'attendent. Je précise qu'elles n'ont pas mis à ce stade 12 millions de personnes en chômage partiel. Elles ont fait des demandes à cette hauteur. Le nombre de gens effectivement arrêtés est plutôt de l'ordre de de la moitié, mais enfin, ce qui fait tout de même plusieurs millions de personnes. Tant que l'État paye ses salariés, les conséquences sociales de la crise sont largement gommées, mais vous voyez bien que si on ne retrouve pas rapidement le niveau de chiffre d'affaires d'avant la crise, eh bien, une bonne partie de ces salariés risque de basculer dans le chômage tout court.
D'où des plans de licenciement massif.
Exactement. Voyez ce qui se passe autour de nous. Par exemple, dans le transport aérien, plusieurs grandes compagnies, Lufthansa, le Scandinave SAS, des compagnies anglaises, américaines, ont annoncé des plans de réduction d'effectifs considérables, mais pas Air France KLM. Est-ce que c'est durable ? Pas sûr. Dans l'automobile, même chose. Quand on discute avec des chefs d'entreprise, ce qu'ils nous disent souvent, c'est qu'ils ont trop de capacité par rapport au marché, qu'il va falloir en quelque sorte rétrécir leur outil de production parce que la demande ne retrouvera pas son niveau antérieur avant longtemps. Et ça signifie forcément des réductions d'effectifs à venir. Alors d'où l'idée d'un plan de relance auquel travaille le gouvernement pour la fin août. Sinon, comme l'a dit Édouard Philippe, il y a un vrai risque d'écroulement de l'économie et de chômage massif.
Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins dans le journal de 7h Europe 1, notez bien que nous parlerons de cette problématique. Est-ce que le chômage partiel laissera place à des licenciements massifs ? Avec Laurent Berger à 8h15, le secrétaire général de la CFDT. À partir de lundi, certains salariés au chômage partiel ou en télétravail seront de retour dans les commerces ou les entreprises et souvent, ils devront prendre les transports.
Et pour éviter l'affluence aux heures de pointe, une charte a été signée en Île-de-France pour étaler les horaires d'arrivée et de départ. Elle sera notamment appliquée chez SGS France, prestataire de services. 20% des salariés vont revenir au siège, mais à l'heure qui leur conviendra le mieux. Caroline Arquier est directrice des ressources humaines.
Chaque manager a identifié dans ses équipes les personnes qui souhaitaient poursuivre le télétravail, les personnes qui allaient revenir sur site et les personnes qui auraient besoin d'aménager les horaires. Donc en fait, c'est une entente entre le manager et le salarié. L'objectif, en tout cas, c'est de pouvoir les soulager par rapport au redémarrage des écoles, mais aussi de pouvoir les rassurer par rapport au transport en commun. Ça peut être un salarié qui, finalement, veut éviter d'être trop en contact dans les transports et donc qui décide d'arriver à 6 heures et puis qui repart à 15 heures de l'après-midi. Tant que le travail est fait, on laisse la souplesse au salarié de pouvoir s'organiser sur l'horaire, en tout cas.
Un propos recueilli par Élise Dangean. Et à propos de transport, on connaît désormais le plan de redémarrage de la SNCF, reprise progressive des trains grandes lignes dès demain, avec un retour à la normale prévu fin juin. Dans un premier temps, il faudra compter sur 50 à 60% des trains de banlieue en Île-de-France, pour les TER entre 40 et 50%, pour les TGV et les intercités un peu plus de 30%.
La politique avec vous, Michaël Darmon. Le texte sur la prolongation de l'état d'urgence sanitaire est débattu à l'Assemblée dans un climat de tension au sein de la majorité. Pour quelle raison ?
À cause de l'article 6 du projet de loi sur la prolongation de l'état d'urgence sanitaire qui prévoit d'organiser des brigades mobiles qui traceront les contacts des personnes contaminées par le Covid-19. Alors dans ce texte, il y a un point qui fâche plusieurs députés de La République En Marche, c'est la façon dont seront menées les enquêtes de ces brigades mobiles qui vont travailler à partir des dossiers médicaux, dossiers qui seront ensuite centralisés sur un fichier informatique. Ces députés redoutent le flicage des Français et le viol du secret médical. Alors je vous rappelle que la création de ces brigades va nécessiter l'embauche de milliers de personnes, des gens extérieurs au monde de la santé et qui en l'état auront accès à des données sensibles sans y être habilités. Alors la bataille va être rude aujourd'hui dans l'hémicycle, d'autant que l'ambiance est exécrable depuis plusieurs semaines au sein du groupe à cause des divergences de vues entre les macronistes de droite et les macronistes de gauche. Hier, la tension est montée d'un cran avec l'exclusion du groupe de la députée Martine Vonner, un médecin qui avait voté justement contre le plan de déconfinement présenté par le gouvernement. À 4 jours du déconfinement, rien ne va plus en Macronie et le défi de l'après-crise sera de pouvoir réinventer le « en même temps ».
Votre fait politique, Michaël Darmon, tous les jours dans la matinale d'Europe 1. Dans l'actualité également, Valérie Giscard d'Estaing visée par une plainte pour agression sexuelle. C'est une journaliste allemande qui affirme qu'après une interview en décembre 2018, l'ex-président de la République lui a posé la main sur les fesses. Âgée de 94 ans, Valérie Giscard d'Estaing dit ne pas se souvenir de sa rencontre avec cette journaliste. Et puis 3 policiers condamnés en comparution immédiate à Marseille, 4 ans, 18 mois et 1 an de prison avec sursis. Ils étaient accusés de l'arrestation illégale d'un jeune réfugié à Voilà un son qui vous dit sûrement quelque chose. Les Beach Boys. Sauf que c'est une toute cette nouvelle chanson. Confiné pour cause de coronavirus, Mike Love, le chanteur du groupe californien Mythique, l'a écrite ces derniers jours et il l'a enregistrée à distance avec son compère des Beach Boys, John Stamos. Ça s'appelle This Too Shall Pass. Ça aussi, ça devrait passer. Tous les bénéfices iront aux banques alimentaires américaines totalement submergées de demandes en ce moment.
Il n'y a rien qui ressemble plus à du Beach Boys que du Beach Boys. C'est incroyable. This Too Shall Pass. Je vous conseille les paroles, elles sont liées au confinement, au lavage des mains, etc., etc. Merci Hélène Zellani pour cette touche musicale en fin de journal. Les Beach Boys, un nouveau Beach Boys ce matin sur Europe 1, hein, qui l'eût cru. Il est 7h15, un nouveau journal tout à l'heure à 7h30. Ce sera avec Jérôme Lacroix. Bon réveil.
La matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard.
Vous vous posez des questions et il y répond. Le médecin d'Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous.
Toutes les heures, les questions de nos auditeurs sur le hashtag Radio Ouverte avec Peter qui nous dit « On nous dit qu'il risque d'y avoir une deuxième vague, mais non liée au Covid, avec des gens qui auraient négligé leur santé pendant le confinement. Est-ce qu'on a des preuves de cela ?» demande Peter.
Oui, on avait déjà entendu de nombreux médecins s'inquiéter de la baisse du nombre d'infarctus et d'accidents vasculaires cérébraux qui ont été diagnostiqués, une baisse qui va de 30 à 50%. Un autre témoin qui est indirect, c'est celui de la consommation des médicaments pendant l'épidémie. Une étude a porté sur un peu moins de 500 millions d'ordonnances concernant 51 millions de personnes au régime général. Et après une période de stockage des médicaments, on a assisté à une baisse de la consommation des médicaments sur la semaine du 13 avril. En vous donnant quelques chiffres. Une baisse de la consommation des vaccins, moins 35 à moins 70%. Une baisse aussi de la consommation d'autres médicaments comme ceux qu'on utilise pour la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, moins 40%. Moins 70% des dispositifs de contraception, peut-être que nous allons avoir un boom des naissances dans 9 mois. 70% au moins aussi de baisse de corticoïdes et d'anti-inflammatoires. 40% sur les antibiotiques. Le seul médicament qui a une augmentation assez inquiétante, c'est l'association hydroxychloroquine et azithromycine avec une augmentation de 7000%.
Bon, avec ce que l'on peut craindre en termes d'automédication, évidemment. Ce message de Valentine qui nous dit « Avons-nous un peu de recul sur les sérologies, à savoir, est-ce que le fait d'avoir eu le Covid confère une immunité ?»
Oui, c'est une des grandes interrogations. Une étude récente nous montre que les données sont plutôt rassurantes. Une étude américaine, 1300 patients qui ont eu un Covid. Et parmi les patients qui ont eu un prélèvement positif, on a assisté à une séroconversion, c'est-à-dire la production d'anticorps chez plus de 99% des patients. La seule chose, c'est que ce sont des anticorps qu'on dit signature, ce qui prouve que vous avez été en contact avec le virus. Mais ce qui serait intéressant, c'est de savoir est-ce que vous avez un nombre d'anticorps suffisamment neutralisant. Et là, pour le coup, ce ne sont pas les mêmes tests, ils sont beaucoup plus compliqués. Même si ces données sont encourageantes, il va falloir être patient. D'autres études devront confirmer cette impression.
Merci Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1 que l'on retrouve à 15h dans son rendez-vous avec Mélanie Gomez et toutes les heures sur l'antenne d'Europe 1 pour répondre à vos questions sur le hashtag Radio Ouverte. Docteur Jimmy Mohamed, merci beaucoup. Il est 7h18. Et nous retrouvons Anissé Mbida pour l'innovation. Bonjour Anissé.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Les réseaux sociaux, les fameux réseaux sociaux, sont régulièrement pollués par des messages et des commentaires dits toxiques. Une nouvelle initiative tente de lutter contre le cyberharcèlement. Comment ? En poussant les gens à réfléchir à deux fois avant d'envoyer des horreurs ?
Oui, c'est testé actuellement sur Twitter et sur Instagram, parce que ça peut arriver, hein, la discussion s'envenime, le ton monte, on est un peu sanguin, donc on finit par dire des choses qu'on pense pas vraiment. Eh bien, désormais, dès que la plateforme détecte qu'on veut publier quelque chose d'offensant, elle va nous prévenir, attention, est-ce que vous êtes sûr de vouloir utiliser ces mots-là ? Eh bien, ça permet de tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant d'appuyer sur le bouton envoyer.
Mais qu'est-ce qui est considéré comme offensant ?
Eh ben, les insultes, évidemment, hein, mais aussi toutes les menaces, les propos sexistes, racistes ou dégradants. En fait, ils vont s'appuyer sur l'ensemble des messages qui ont déjà été signalés comme offensants par les utilisateurs du réseau. Donc, c'est pas vraiment de la censure, hein. Rien n'empêche d'ignorer l'alerte et d'écrire ce qu'on veut. C'est plutôt une façon de suggérer l'auto-censure pour qu'on évite de mettre de l'huile sur le feu ou de participer à ce climat toxique détestable.
Non, mais si on s'appuie sur l'intelligence des gens, peut-être que ça peut marcher, peut-être. Vous disiez que c'était en test. On sait quand ce sera actif ?
Alors sur Twitter, les tests viennent tout juste de commencer, hein. Il faudra le traduire en français, donc ça ne devrait pas être disponible avant l'automne. Mais sur Instagram, ça y est, ça fonctionne déjà. Donc je ne sais pas si vous le saviez, mais depuis le début du confinement, on constate un léger apaisement sur les réseaux sociaux. Alors très léger, hein, mais les gens sont un peu moins violents. Donc on espère que ça repartira pas comme en 40 dès que le confinement sera terminé.
Merci beaucoup Anissa Mbida, une belle innovation à surveiller, donc sa mise en place sur tous les réseaux sociaux. Anissa Mbida tous les matins juste après le journal de 7h. Europe 1. Il est 7h20, dans un tout petit instant, l'édito sport de Virginie Fulpin. Le monde bouge avec Axel de Tarlé. On va parler des émissions de CO2 qui ont nettement reculé l'an dernier en Europe. Une bonne nouvelle ce matin, à tout de suite.
Matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard.
Un édito sport tous les matins avec Virginie Fulpin dans un instant. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu.
On va parler du sport amateur qui est en danger et vous dites que ce doit être une cause nationale. C'est dans un instant. D'abord, le monde bouge avec Axel de Tarlé. Bonjour Axel.
Bonjour Mathieu.
Une bonne nouvelle ce matin. Je vous attendais, figurez-vous Axel. Les émissions de CO2 ont nettement reculé l'an dernier en Europe. Axel, faut-il croire les grands patrons quand ils promettent de mettre l'environnement au cœur de la reprise ?
Alors d'abord, effectivement, la bonne nouvelle, hein, hier Eurostat a annoncé une baisse de 4,5% des émissions de CO2 en Europe pour 2019, et ce déjà après une baisse de 2,5% un an plus tôt. Donc vous voyez, c'est possible de réduire les émissions de CO2. Alors question, vous l'avez dit, peut-on aller plus loin ? Oui, disent les grands patrons qui viennent de signer une tribune publiée dans Le Monde où ils s'engagent à mettre l'environnement au cœur de la reprise. Alors qui sont ces grands patrons ? Bah, vous en avez reçu un hier, hein, le président de Michelin, Florent Ménégo. Mais parmi les signataires, on trouve aussi le PDG de Total. Total qui est quand même l'un des plus gros émetteurs de CO2 au monde. Donc on peut quand même effectivement s'interroger sur l'engagement. D'autant que figurez-vous, hier, le patron de Total était interrogé sur la chute de la consommation de carburant en France. Et quelle a été sa réponse ? Eh bien, il a répondu, je cite, « Bonne nouvelle, quand on regarde ce qui s'est passé en Chine, la consommation est très vite remontée, donc on a de l'espoir. » Donc vous voyez, pour Total, c'est clair, le message c'est « Vive la consommation de pétrole !»
Oui, ce qui est quand même en contradiction avec cette tribune sur l'environnement. Total est condamné à rester l'un des plus gros émetteurs de CO2 au monde ?
Ben non. Et le patron de Total l'explique très bien. Parce que dans quelques années, dit-il, le parc automobile sera électrique. Les voitures à essence seront même interdites en centre-ville. Et donc, dans les stations, on ne vendra plus d'essence, mais on vendra de l'électricité. Et donc, en fait, Total se prépare tout simplement à suivre ses clients et va devenir un fournisseur d'électricité. Et là, le discours, hein, l'engagement écologique avec cette tribune devient cohérent et crédible. Et l'idée, ce serait même, avec cette crise, d'accélérer la transition. Avec, par exemple, on parle d'une prime gouvernementale sur les petites voitures électriques. Et en fait, on réalise que c'est là la grande différence avec la crise de 2008. On sent bien que cette fois, il y a la volonté et la possibilité d'engager un vrai tournant vers une économie décarbonée.
Et on va suivre cela de très près puisque nous racontons le monde qui change sur Europe 1. Merci Axel de Tarlé, le monde bouge avec vous tous les matins à 7h20. Et place donc à l'édito sport de Virginie Fulpin. Virginie, le sport amateur est en grand danger avec les répercussions de la crise sanitaire. Pour vous, ça doit être une cause nationale.
Oui, c'est un des paradoxes de cette crise. On se rend bien compte que faire du sport régulièrement préserve notre santé et nous rend plus résistants. Et en même temps, les clubs amateurs vont avoir du mal à se relever de cette période. En France, il y a 16 millions de licenciés dans 180 000 clubs et associations sportives. C'est par ces structures que vit le sport dans notre pays. Et leur avenir se joue en ce moment. Il faut donc qu'on soit à la hauteur. C'est une question de santé publique. Et puis c'est aussi le vivier du sport de haut niveau qui fait notre fierté. Ces clubs amateurs sont à l'arrêt depuis le mois de mars. Ils devront attendre septembre pour retrouver un semblant d'activité, mais dans quelles conditions ? Financièrement, ça va être très compliqué, hein, si on détaille leurs sources de revenus. Il y a d'abord les cotisations des adhérents. Le nombre de licenciés risque de baisser parce que de nombreuses personnes ont vu leur salaire diminuer et acheter une licence sportive ne fera pas forcément partie de leurs priorités. La billetterie ensuite, inexistante en ce moment, bien sûr. Je parle des billets pour les matchs des plus grosses structures, mais même dans les plus petits clubs, hein, il n'y a pas de tournoi de fin d'année qui représente une rentrée d'argent substantielle. Les partenariats et les sponsors aussi. Si de nombreuses entreprises locales ont déjà dit qu'elles arrêteraient parce qu'elles sont en difficulté. Et puis les subventions des collectivités locales qui risquent aussi de diminuer. Donc le sport amateur ne s'en sortira pas tout seul.
Mais il y a forcément des solutions pour aider ce sport amateur.
Oui, et au niveau du ministère des Sports, on est convaincu de son importance. Roxana Maracineanu l'a dit à de nombreuses reprises ces dernières semaines. Concrètement, les grosses fédérations ont déjà esquissé des plans de soutien aux clubs et aux associations. Au rugby, au tennis, on a prévu de débloquer 35 millions d'euros. Le football ne sera pas en reste, mais est-ce que ça suffira? Bah, sans doute pas. C'est au niveau de l'État qu'on doit aussi agir. Vous savez qu'il existe une taxe sur les droits télé. Elle est directement affectée au sport et ruisselle vers les clubs amateurs. C'est la taxe Buffet. Elle est fixée à 5% du montant des droits télé, mais elle est plafonnée à 40 millions d'euros par an, quel que soit le montant de ces droits télé qui ont beaucoup augmenté. Alors pourquoi ne pas déplafonner cette taxe cette année, voire de manière plus pérenne? Ce serait la solution la plus solidaire pour le sport amateur. Ça lui permettrait de se relever. C'est aux députés de jouer et d'adopter un amendement en ce sens. Et là, ce serait un signe fort. On en ferait une cause nationale. Parce qu'on ne peut pas laisser les clubs exsangues alors que des Jeux Olympiques se profilent à Paris dans 4 ans.
Merci beaucoup Virginie Fulpin. Le sport amateur, cause nationale. D'accord ou pas, vous partagez? En tout cas, vous écoutez tous les matins l'édito sport et vous réagissez au 3921 et sur le hashtag Radio Ouverte. Une petite pépite ce matin. Alors que vous avez reconnu Eminem, évidemment, je vous demande de remonter à l'époque des CD ou même des cassettes qu'on tournait avec un crayon. L'époque d'avant Internet, celle des vieux caméscopes avec la date sur l'image quand vous filmiez vos événements de famille. Des vidéos du rappeur Eminem en 92. Juin 1992, avec une coupe de footballeur de 2020, on dirait vraiment Marco Verratti du PSG. Le jeune rappeur n'a que 19 ans, 3 vidéos et le débit est déjà là. On le voit dans les couloirs d'un studio de Paisley Park, les célèbres studios de Prince. C'est son premier vrai enregistrement et il s'amuse devant la caméra, 7 ans avant le succès planétaire qu'on lui connaît. Musicalement, bon, vous l'entendez, c'est 92, mais je vous conseille les vidéos, c'est amusant, c'est rafraîchissant et pour Eminem, c'est facile à dire en 2020, mais pour Eminem, c'est prometteur. Ce matin, 28 ans après, ça s'appelle Darkness et c'est sur le dernier album d'Eminem. At the room service menu off of Benzo. I can hear the music continue to crescendo. I can see the whole fucking venue from my window. That's when you know you're schizo. Cause I keep peeking out the curtain from the hotel. The music is so loud, but it's almost as though I don't hear no sound. I should get ready for the show now. Wait. Darkness sur le dernier album d'Eminem, ça a quand même bien changé. On se remet 1992. 7h29, c'était Eminem sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous. Laurent Cabrol est avec nous. A-t-il le même flow que Slim Shady? Je ne sais pas. Laurent Cabrol, la météo.
Je voulais vous simplement parler un petit peu des sunglasses, parce que c'est vrai que historiquement, on y croit et on a raison d'y croire. Les agriculteurs, les paysans, les jardiniers, depuis des années, observent qu'à partir du 13 mai, 11, 12, 13 mai, il n'y aura plus de gelée en France. Alors, il y a des exceptions, bien sûr. En 1975, il faisait 0 degré le 4 juin sur Paris, où il a neigé à Paris le 18 mai 1935. Enfin bon, mais dans la grande majorité des cas, à partir du 11, 12, 13 mai, c'est fini, les gelées n'existent plus. Et cela permet aux jardiniers et aux agriculteurs de se lancer dans les semis et donc de ne pas avoir de pertes. Et ça, c'est quand même absolument irréfutable si l'on regarde les statistiques météo. Maintenant, l'explication, elle est un petit peu bancale. On dit que c'est un essaim d'étoiles filantes venu de l'Énéide, qui est la constellation du Léon. Ces étoiles filantes se profilent entre la Terre et le Soleil, et donc elles forment un écran, ce qui fait baisser les températures. Croirons, si vous le voulez, j'en ai parlé à Alain Siroux, il a souri. Et puis, mais en tout cas, il y a une explication, c'est que ça, vraiment, ça existe. Alors maintenant que le 11, 12, 13 mai, il fasse froid, ça, c'est beaucoup plus aléatoire. Mais c'est une date qui est importante, c'est que les températures baissent. Et puis d'ailleurs, en Alsace, ils font baisser les températures entre le 20 et 21 mai. Alors en ce qui concerne maintenant les températures d'aujourd'hui, ce sont situées entre 21 et 28 degrés, parce que ce sont des températures encore chaudes, mais elles vont baisser de manière spectaculaire à partir de dimanche. Et les 11, 12, 13 mai seront cette année des véritables sunglasses, comme ce fut le cas l'année dernière.
Merci beaucoup Laurent Cabrol pour la météo. Nous sommes avec Jérôme Lacroix. Bonjour Jérôme.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un nouveau journal à 7h30.
On va pouvoir dire des enfants qui développent un syndrome de type Kawasaki par rapport à des enfants sains. Est-ce qu'on retrouve une signature de gène particulière ?
séquencée, décryptée, analysée pour savoir s'il existe un lien entre le coronavirus et la maladie de Kawasaki, syndrome rare qui peut toucher les enfants. Nous avons pu exceptionnellement observer de près le travail des chercheurs de l'Institut parisien. Reportage dès le début du journal. Rouge ou vert, deux nuances de déconfinement. Qu'est-ce qui va changer dans votre département à partir de lundi? Édouard Philippe lève le voile à partir de 16h. Dans ce journal, Valérie Giscard d'Estaing, visée par une plainte en Allemagne pour agression sexuelle. Et puis, le best-seller du déconfinement, la bicyclette. On veut notamment éviter les transports, les ventes de vélos, surtout électriques, grimpent en flèche. Votre invité après ce journal, Mathieu.
Stéphane Baudet, vice-président du Conseil régional d'Île-de-France, chargé des transports, président de l'Association des maires franciliens, maire lui-même d'Évry-Courcouronnes, c'est juste après ce journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
C'est un syndrome que nous étions très peu à connaître avant la semaine dernière, hormis les médecins, le syndrome de Kawasaki, maladie inflammatoire qui touche les enfants de moins de 10 ans, très rare hors d'Asie, mais ces dernières semaines, des enfants présentant des symptômes proches ont été soignés dans des hôpitaux de plusieurs pays, dont la France. Les médecins se demandent ainsi s'il y a un lien avec l'épidémie de Covid-19.
Les médecins et les chercheurs, notamment ceux de l'Institut Imagine, basé à Paris. Depuis hier, ils analysent des échantillons sanguins d'enfants touchés par cette inflammation. Immersion exceptionnelle dans ce laboratoire avec Victor Dolande.
Il faut d'abord passer deux sas où la pression diminue progressivement. Dans le premier, Marine Lucas se lave les mains et enfile des gants. On arrive dans le deuxième sas. Michael Ménager, directeur de laboratoire à l'Institut Imagine, supervise tous les gestes de protection de l'ingénieur avant qu'elle entre dans le laboratoire.
Marine vient de mettre des surchausses. Là, elle va avoir accès à une blouse. On parle de combinaison intégrale qui va lui permettre d'être protégée de la tête aux pieds avec une surchausse.
Derrière une porte de 5 cm d'épaisseur, l'ingénieur manipule des échantillons plongé dans des congélateurs à moins 80 degrés, 2 à 3 heures dans cette pièce de 20 mètres carrés pour isoler chaque cellule et mieux comprendre le phénomène, comme l'explique Michael Ménager.
On va pouvoir dire des enfants qui développent un syndrome de type Kawasaki par rapport à des enfants sains. Est-ce qu'on retrouve une signature de gène particulière?
Cette technique permet d'établir une carte d'identité cellulaire, une avancée considérable pour la médecine, selon Frédéric Rioloca, lui aussi directeur de laboratoire à l'Institut Imagine.
Ça va permettre d'identifier ceux qui sont à risque de faire des formes inflammatoires sévères et donc de pouvoir intervenir un peu plus tôt que dans l'état d'inflammation grave qui conduit les enfants en réanimation.
Une avancée technologique qui pourrait donc sauver de très nombreuses vies dans les années qui viennent.
Reportage Europe 1 signé Victor Dolande.
Et rappelons qu'aucun décès n'est à déplorer chez les enfants récemment hospitalisés pour ces symptômes proches de la maladie de Kawasaki.
Aujourd'hui, vous saurez rouge ou vert en fonction de la situation sanitaire selon la couleur de votre département. Ce jeudi, le déconfinement lundi près de chez vous sera plus ou moins strict. Différentes modalités que le Premier ministre Édouard Philippe doit présenter à 16h depuis Matignon.
Une carte bâtie selon plusieurs indicateurs, scrutée depuis des semaines au sein du gouvernement. Adrien Beck.
Les chiffres, on les regarde tout le temps. Voilà ce que confie un proche du ministre de la Santé. Circulation du virus, situation à l'hôpital, capacité de dépistage. Des indicateurs clés scrutés tout particulièrement ces dernières heures. De leur niveau dépendra la couleur verte ou rouge de chaque département. Reste aussi à répondre à plusieurs questions. Quelle modalité pour la règle des 100 km? Faudra-t-il une nouvelle attestation? Hier soir, Emmanuel Macron a affiné les derniers détails des annonces autour d'un dîner avec Édouard Philippe et des dirigeants de la majorité. Façon aussi de se projeter dans la gestion des trois prochaines semaines car l'exécutif n'a pas le droit à l'erreur. Prochaine borne, ce sera le 2 juin. Le risque, c'est que la première étape soit un échec, reconnaît un conseiller du Premier ministre qui en appelle à la responsabilité de chaque Français. De fait, le monsieur déconfinement Jean Castex a prévenu qu'il planchait déjà, si nécessaire, sur un plan de reconfinement.
Oui, Jean Castex, auditionné hier au Sénat, qui a aussi alerté sur les transports en commun plus chargés à partir de lundi. Retour de nombreux salariés au bureau.
Il appelle les entreprises à des horaires décalés de reprise pour éviter les heures de pointe, ainsi qu'au prolongement, voire à l'amplification du télétravail.
Et pour l'Île-de-France, une charte a été signée en ce sens hier entre la région, l'État, les syndicats et les sociétés de transport. Les premiers lourds effets de l'épidémie sur le groupe Air France KLM, on apprend à l'instant, perte nette de 1,8 milliard d'euros au premier trimestre. La compagnie anticipe des retombées encore plus désastreuses pour ses finances d'ici l'été. Dans l'actualité également ce matin, une plainte contre Valérie Giscard d'Estaing pour agression sexuelle. Une journaliste allemande accuse l'ancien président de lui avoir posé la main sur les fesses lors d'un entretien à Paris fin 2018. Précision d'Hélène Kohl à Berlin.
Le récit de la journaliste est corroboré par les témoignages du reste de son équipe. Le caméraman et la preneuse de son racontent la même scène. À l'issue de l'interview avec Valérie Giscard d'Estaing, la journaliste lui demande de poser pour une photo de groupe et c'est à ce moment-là que l'ancien président lui aurait à deux reprises touché les fesses. Cela m'a mise extrêmement mal à l'aise et j'ai tenté de repousser sa main, raconte-t-elle au journal Süddeutsche Zeitung. Ensuite, il veut lui montrer quelques photos qui ornent les murs de son bureau. Le caméraman assiste à la manœuvre. Dans le rapport qu'il a livré à un cabinet d'avocats allemand, il déclare avoir vu à plusieurs reprises Valérie Giscard d'Estaing poser sa main dans le dos de sa collègue, et ce, de plus en plus bas. Toujours selon le caméraman, la jeune femme aurait cherché à bloquer ses attouchements et aurait même signalé son malaise au reste de l'équipe. Contacté par la presse allemande, l'ancien président, âgé de 94 ans aujourd'hui, affirme ne pas se souvenir de ce moment, ni même de l'entretien avec cette journaliste. Berlin, Hélène Kohl, Europe 1.
En France, et si la grande gagnante du déconfinement, c'était la petite reine, la bicyclette. Crainte des transports en commun, on va en parler dans un instant. Aménagements urbains dans certaines villes, conséquence, plus 50% de ventes sur le site internet Rakuten, plus 30% pour Decathlon. Le vélo est très demandé, surtout le vélo électrique, Élise Dangean.
Oui, et cette tendance ne profite pas qu'aux géants. L'entreprise Vélo Bécane, par exemple, vient de vivre un mois d'avril tout à fait exceptionnel. 500 vélos électriques vendus, contre 200 l'an dernier à la même période. Une hausse d'activité qui s'intensifie à mesure que le déconfinement approche. Arnaud Hadouk est le patron de Vélo Bécane.
On n'a jamais eu autant de commandes. C'est du non-stop. On n'a plus d'horaire. On a doublé les effectifs. À l'assemblage, on est passé de 10 à 20 personnes en l'espace d'un mois, un mois et demi. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que la boutique à Paris est fermée. Et aujourd'hui, les clients se sont un petit peu transformés. Ils ont plus pris l'habitude d'être passés commande directement en ligne. Les gens ne veulent plus prendre les transports en commun. Et donc, ils sont obligés de s'équiper.
Alors, pour s'équiper d'ici au 11 mai, il faut souvent passer par Internet. Mais les entreprises du secteur se préparent déjà à la réouverture de leur boutique. Celle que nous avons pu joindre l'assure. Il y aura du stock et même des offres promotionnelles pour encourager une dynamique déjà bien enclenchée. L'an dernier, près d'un vélo sur deux vendu en France disposait d'une assistance électrique.
Élise Dangean, à vélo.
Merci beaucoup Jérôme Lacroix, assis dans sa cuisine, sa chambre, je ne sais pas exactement. On va bientôt se retrouver, Jérôme Lacroix. Le vélo électrique, tiens, est-ce que vous vous y mettez? On va parler de vélo aussi dans un instant, vous savez, avec mon invité en charge des transports en Ile-de-France. Merci Jérôme Lacroix. À 8h, un nouveau journal, ce sera avec François Geffrier sur Europe 1, bien sûr.
La matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard.
Et après le journal de 8h, 8h15, Sonia Mabrouk reçoit le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger. La reprise du travail dans 4 jours, les conditions sanitaires et sociales, le télétravail toujours pour beaucoup. Est-ce que ça vous stresse de reprendre? Est-ce que ce retour à une vie sociale dans un contexte d'épidémie vous inquiète? Avec Laurent Berger, aussi la crise économique en vue, le chômage partiel va-t-il laisser place au chômage tout court? Quelle reprise pour l'économie? Quelle place pour l'urgence écologique aussi? Après l'interview de Sonia Mabrouk, Laurent Berger vous répondra en direct. Inscrivez-vous déjà au 3921 et sur le hashtag Radio Ouverte. Mais pour l'heure, à 7h39, les acteurs de l'actualité en direct le matin sur Europe 1. Bonjour Stéphane Baudet.
Bonjour.
Vous êtes vice-président du Conseil régional d'Île-de-France, chargé des transports et des mobilités durables. Vous êtes également, on va y revenir, président de l'Association des maires d'Île-de-France. Édouard Philippe va détailler cet après-midi les détails du plan de déconfinement. On va savoir quels sont les départements en rouge, en vert notamment. On est d'accord pour l'Île-de-France, Stéphane de Baudet, ça devrait rester en rouge partout.
On l'imagine tous comme ça, oui.
Oui, c'est la problématique de l'Île-de-France, à la fois zone rouge et poumon économique du pays. Et donc cette problématique des transports, écoutez Jean Castex, le monsieur déconfinement du gouvernement, c'était hier matin au Sénat.
Le sujet le plus délicat est sans doute celui des transports, et en particulier en Île-de-France. On est à la fois dans des endroits souterrains où il y a du monde, et ce que nous préparons par bassin d'emploi, c'est que soient mis en place des horaires décalés de reprise. Nous avons demandé que le télétravail non seulement soit prolongé, mais dans toute la mesure du possible, amplifié.
La balle est donc dans votre camp. Quelle sera la voilure après ce week-end, Stéphane Baudet? Ils sont 5 millions d'ordinaires. Combien de passagers pourront circuler dans les transports en commun franciliens lundi matin?
À peu près 10% de ce que l'on a habituellement. Voilà, peut-être dire 20 sur certaines lignes. Donc forcément, ça va être très tendu. Je pense que ce n'est pas nous qui avons la main, c'est collectivement que nous avons la main. D'abord, celles et ceux qui ne sont pas obligés de prendre des transports en commun Vous l'avez dit, vous avez parlé du vélo et qui pourront prendre d'autres moyens de transport. Sur les 43 millions de déplacements quotidiens en Ile-de-France, il y en a 70% qui ne font pas 5 km, donc on peut peut-être se passer exceptionnellement des transports en commun. Il y a évidemment le maintien du télétravail. Et puis, vous l'avez dit, il y a cette charte que nous avons signée avec les entreprises et qui permet de lisser les heures de pointe, d'obliger les salariés qui sont obligés, eux, de prendre des transports en commun, d'avoir une attestation de leur employeur, un peu sur le même type que celle que nous avons aujourd'hui pendant le confinement, et attestation d'employeur qui permettra d'accéder aux transports en commun, mais également avec une tranche horaire pour aller travailler à certains horaires précis.
Stéphane Baudet, si on est capable de transporter 10%, 10 à 20%, on avait compris, des voyageurs, combien est-ce qu'on en attend?
C'est très difficile. On sait qu'à peu près 45% des salariés pourraient ressortir à partir de lundi. Donc, c'est pas compliqué, hein. Vous savez, avec les mesures sanitaires qui sont mises en place à l'intérieur des rames, la distanciation sociale, le mètre d'écart, un siège sur deux qui est condamné, ça renvoie évidemment beaucoup d'usagers sur ou les quais, ou l'intérieur des gares, ou alors même d'ailleurs sur l'espace public avec des files d'attente qui pourraient être assez longues. Donc,
ça ressemble à un jour de grève, hein, Stéphane Baudet, si je vous écoute.
Alors oui, ça peut ressembler en effet à un jour de grève, avec peut-être la densité de population en moins, puisque sur les jours de grève, excepté les tout premiers jours où les gens prennent souvent des RTT, on a l'afflux habituel, c'est-à-dire les 5 millions de voyageurs que vous évoquiez. Or, quand même, on est dans un déconfinement qui n'est pas total. Le télétravail et les bonnes habitudes de travail que nous avons prises pendant le déconfinement pourront en grande partie être maintenues. Donc il y a évidemment une forte inquiétude. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous avons demandé des renforts de services de police pour les contrôles, notamment les contrôles de celles et ceux qui ne seraient pas porteurs de masques, de celles et ceux qui n'auraient pas l'attestation, mais aussi pour fluidifier l'entrée dans les gares. Nous avons obtenu quasiment 75% du trafic RATP qui va fonctionner, un peu plus de 60% du trafic SNCF, ce qui est déjà pas mal pour une reprise. Il va falloir que tout le monde y mette un petit peu du sien. Nous aurons une vigilance particulièrement vive de jour en jour pour essayer de progresser là où on verra qu'il y a des tensions particulières. Voilà.
Il va ressembler à quoi ma rame de métro concrètement lundi matin?
Une fois qu'on est dans la rame, on peut imaginer que c'est presque l'endroit où ça se passe le mieux. La distanciation sociale y est imposée, un siège sur deux est condamné. C'est ce qui nous inquiète, nous, c'est davantage le trajet par le quai, l'entrée de la gare, la filtration dans la gare. On a obtenu de la SNCF que toutes les gares de banlieue soient ouvertes. La RATP ouvre quasiment toutes les gares. Elle sera sans doute obligée d'en fermer une cinquantaine qui sont des gares d'interconnexion dont les couloirs sont trop étroits et ne permettent pas une gestion sanitaire correcte. Encore une fois, c'est plutôt la transhumance en dehors des trains qui peut interroger.
La question du port du masque obligatoire dans les transports, c'est aussi la question des amendes. Est-ce qu'il faut sévèrement verbaliser, et qui doit le faire, Stéphane Baudet?
On est évidemment favorable. Les forces de l'ordre, toutes les personnes assermentées qui habituellement peuvent mettre une amende à quelqu'un qui n'a pas ses billets. Je pense que ça va être décrété aujourd'hui sur la question des masques. On attend évidemment les annonces d'Edouard Philippe, mais c'est un complément assez logique à la charte que nous avons signée ensemble. Nous espérons également qu'il y ait des amendes. Je crois que c'est renvoyé plutôt à lundi, cette question-là, pour celles et ceux qui ne seraient pas munis de leur attestation, les obligeant d'une certaine manière à prendre des transports en commun.
Ce matin, Stéphane Baudet, qu'on soit clair, vous appelez les Franciliens à renoncer aux transports en commun ?
Alors oui, sauf ceux qui sont obligés. Ceux qui sont obligés, ce que je leur demande surtout, c'est de ne pas le faire comme ils le font habituellement, en plein cœur des heures de pointe, et de veiller avec leur employeur à pouvoir l'étaler. On ne peut pas dire à celles et ceux qui sont obligés de prendre des transports en commun de ne pas les prendre. En revanche, il y a beaucoup d'autres solutions que les transports en commun. On est une des régions du monde où l'on marche le plus. Il y a le vélo, on l'a évoqué tout à l'heure. Il peut y avoir le covoiturage à deux maximum.
Mais alors justement,
dans la voiture.
Le vélo qu'on a évoqué, justement. Oui, le covoiturage aussi, ne l'oublions pas pour ceux qui pourraient circuler en voiture.
Deux dans la voiture, attention. Hein. Pas à quatre. C'est moins que d'habitude.
Évidemment. Mais le plan vélo pour l'Île-de-France, accéléré.
Oui, bien sûr, le plan vélo, le RER vélo qui a été signé avec le collectif vélo. Il y a déjà une centaine de kilomètres de pistes cyclables exceptionnelles qui ont été mises en œuvre sur Paris et Petite Couronne.
Le maire de Neuilly, par exemple, qui a bloqué son axe principal 2 km pour les vélos. Ça a l'air bête, 2 km comme ça, mais ça permet de rallier l'étoile à la Défense sans passer
ça
par
ça change
le...
tout, oui. ça fait des jonctions incroyables. Nous, à Évry-Courcouronnes, on en déploie 28 km en moins d'une semaine.
On a demandé à rouvrir les massifs forestiers, par exemple, parce qu'en effet, ça fait des jonctions qui raccourcissent énormément les temps de parcours et qui font qu'on peut faire gagner du temps à tout le monde. Vous l'avez dit vous-même, d'ailleurs, les vélos, la vente de vélos explose. Ça a déjà été le cas pendant la grève. C'est le cas de façon continue depuis 2 ans. Donc c'est aussi le bon moment pour prendre de bonnes habitudes.
La Fédération nationale des usagers des transports parle de paris risqué pour la distanciation sociale dans les transports. Il y a 83% des Français qui se disent inquiets. Pour terminer, Stéphane Baudet, comment est-ce qu'on les rassure ce matin ?
Je ne vais pas se mentir, ça va être compliqué. On les rassure parce qu'on a mis en place des dispositifs d'hygiène, de nettoyage des rames historiques, parce qu'il va y avoir tout ce qu'il faut en termes de gel hydroalcoolique, de distribution de masques à l'entrée des gares. Donc on les rassure au maximum. Mais en effet, ce peut être compliqué. C'est la raison pour laquelle ce qui va compter peut-être le plus lundi, c'est notre capacité à être toutes et tous vigilants et très à l'écoute pour progresser de jour en jour.
Merci Stéphane Baudet, merci beaucoup. Vice-président du Conseil régional d'Île-de-France, chargé des transports et des mobilité durable, l'invité d'Europe 1 ce matin en direct, les acteurs de l'actualité dans votre matinale sur Europe 1. Il est 7h47.
Europe 1.
Est-ce que cette situation dans les transports par exemple, ça peut faire partie des sujets qui vous inquiètent avec ce déconfinement? Parlons-en ensemble avec vous au 3921 et sur le hashtag Radio Ouverte, n'hésitez pas. Dans un instant, l'opinion de Nicolas Béteau et la culture avec Jean-Philippe Ballas.
La matinale d'Europe 1.
Mathieu Béliard.
Vous êtes sur Europe 1, 3 ans aujourd'hui qu'Emmanuel Macron a été élu président de la République. Bonjour Nicolas Béteau.
Bonjour Mathieu.
L'opinion de Nicolas Béteau, je ne sais pas s'il y aura des bougies sur le gâteau. Vous allez revenir sur ces 3 ans dans un tout petit instant. Mais d'abord, Périscope, la culture à 360 degrés avec vous Jean-Philippe Ballas. Bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Et c'est un événement ce matin. Le retour de l'un de nos artistes les plus populaires, Vianney, avec une nouvelle chanson. Son titre, N'attendons pas, Jean-Philippe.
Oui, et nous avons pu joindre Vianney qui peaufine actuellement son nouvel album. Et voici donc les premières notes.
Il est lundi, maudit matin. Ce que je fais ne me plaît pas. C'est décidé d'ici demain. C'est plus moi.
Bonjour Vianney.
Bonjour Jean-Philippe.
Alors j'essayais de vous imaginer en confinement et je me disais, il doit être tout le temps dans la musique.
Ouais, c'est ça, carrément. En fait, j'habite juste à côté de mon petit studio. Donc j'y vais tous les jours en fait. J'y vais tôt le matin. C'est-à-dire que du coup, le fait de voir personne, je sais pas, j'étais plus tranquille, le téléphone sonnait moins et tout, c'était chouette. Moi, j'ai pu bien travailler. Je dois reconnaître, moi, j'ai de la chance. Il y a vraiment des gens qui ont souffert absolument de ce confinement. Bon, tout ça nous a fait chier, mais il faut reconnaître qu'il y en a qui ont souffert.
Je fais de la vie mon drapeau, je vois la vie comme un cadeau. On n'a pas le temps de se lasser, on n'a pas le temps de se tasser.
Alors cette nouvelle façon de travailler un peu en ermite, Vianney, ça va changer quoi au prochain album ?
Je pense qu'il sera encore plus artisanal que le dernier. Et le confinement a aidé en ce sens. C'est-à-dire qu'en effet, j'ai fait encore plus de choses dans mon coin, en chérissant ce côté-là artisanal. Moi, c'est ça qui me touche dans les chansons, quand j'entends les violoncelles qui ne sont pas forcément bien enregistrées. Mais je trouve qu'évidemment, ça s'en ressent dans le son, parce que du coup, il y a des maladresses, du coup, il y a des choses un peu magiques qui peuvent se passer, des imprévus. C'est pour ça que je le reconnais que le confinement, moi je trouve que l'imprévu c'est un truc qui peut nous manquer dans la vie et qui en fait nous rend vivants.
J'ai trop qui m'éclique mes claques, entre des claques et des flaques.
Vianney, est-ce que vous arrivez à imaginer votre prochain concert ?
Je sais pas, je pense que c'est sûr qu'on aura tous besoin de chanter, de danser, de se retrouver. Mais je sais pas pour quand c'est, tout est incertain. J'ai même de revenir sur les réseaux, de dire « Salut, j'ai une nouvelle chanson ». Eh ben pour moi c'est bizarre, hein, je pensais pas, mais j'étais hyper bousculé quoi. C'est comme si je m'apprêtais à retrouver des vieux copains.
On prend des boîtes, on y range les gens qu'au fond jamais l'on ne comprend. Comme l'homme est fait de mille bois, ces boîtes que l'on prend ne sont jamais assez grandes.
Comment dire, j'ai l'impression que tous quand même on a consommé plus entre guillemets consommé hein, de films, de livres, de musique. Et c'est chouette, et c'est pour ça qu'il ne faut pas penser au contexte économique, on s'en fout de ça. Il faut sortir des chansons, si on avait prévu, il faut le faire. Encore une fois, moi je considère que j'ai été bien entouré tout pendant ce confinement, j'ai eu beaucoup de chance. Mais les gens seuls, ma petite grand-mère que je suis allé voir hier pour la première fois depuis le début du confinement. Enfin voilà, il y a plein de gens qui ont été seuls pendant ce confinement-là. Et il faut les abreuver de livres, de musique et de cinéma.
Merci beaucoup Vianney.
Avec grand plaisir, merci à vous Jean-Pierre.
N'attendons pas de vivre, n'attendons pas.
n'attendons pas. C'était Vianney dans Périscope. Alors on ne sait pas quand sortira le nouvel album, mais voilà cette nouvelle chanson. Vianney dans Périscope au micro de Jean-Philippe Ballas. Merci Jean-Philippe.
La Caisse d'épargne vous présente l'opinion de Nicolas Bétou. Caisse d'épargne, vous être utile.
L'opinion de Nicolas Bétou. Cela fait 3 ans aujourd'hui, Nicolas, 7 mai, qu'Emmanuel Macron a été élu.
Oui, et c'est forcément un bien étrange anniversaire que va vivre le chef de l'État. Pas question de célébration, bien sûr, confinement oblige, et puis l'ambiance n'est pas forcément aux réjouissances. L'année dernière non plus, d'ailleurs, le président a essayé à cette date de retrouver un peu d'oxygène politique après la crise des Gilets jaunes qui l'avait durement affaibli. Non, il n'y a que la première année qu'il y avait eu une célébration discrète à l'Élysée, un peu plus voyante parmi les grands acteurs de la Macronie. Ah, évidemment, c'était une autre époque. Hein. Les 12 mois précédents avaient été l'occasion d'une vaste recomposition politique à la main d'Emmanuel Macron, qui avait ainsi pu lancer une rafale de réformes, en général assez réussie.
Alors que ce troisième anniversaire arrive en pleine crise du coronavirus.
Oui, et juste après la bataille autour de la réforme des retraites, politiquement, c'est donc un moment très particulier. Toutes les cartes ont été rebattues. Économiquement, la crise est pire que la Grande Dépression de 1929. Socialement, un désastre menace. Sur le plan sanitaire, c'est toujours la grande incertitude quant au rapport de force politique. Eh bien, ils sont en train de bouger avec la crise. Bon, bah, dans pareil contexte, c'est indispensable de se poser la question de l'après. Autrement dit, le plus important dans ce troisième anniversaire, ce sont en fait les 2 années qui restent jusqu'à la fin du quinquennat.
Et justement, 2 ans pour faire quoi ?
Alors c'est la question que se sont posés tous les prédécesseurs d'Emmanuel Macron qui ont tous eu, à un moment de leur mandat, à affronter une crise grave. Tous ont alors réorienté leur politique, ce qui ne les a d'ailleurs pas empêchés d'être battus aux élections suivantes. Bon ben aujourd'hui, le président sème des petites phrases sur le thème « rien ne ressemblera au jour d'avant ». Mais on ne sait pas encore précisément si dans son esprit cela s'applique au contexte ou à la manière de gouverner ou s'il envisage plus que des ajustements un vrai changement de ligne politique. Au demeurant, il a peu de marge de manœuvre, y compris sur le plan personnel. Emmanuel Macron n'a pour l'instant pas réussi à conserver le capital confiance qu'il avait reconstitué au début de la crise du coronavirus, alors que Édouard Philippe, lui, eh ben, il voit son score monter dans les sondages.
Et donc 2 ans pour faire quoi, bien sûr, mais aussi avec qui ?
Alors vous faites allusion aux petites phrases lâchées ici ou là par Emmanuel Macron et qui peuvent en effet mettre son Premier ministre en porte-à-faux. C'est assez classique dans l'histoire de la Ve République. Bon, mais la réalité, c'est que le Covid-19 impose totalement son calendrier. À l'Élysée, on dit qu'il a créé sa propre temporalité à l'intérieur du quinquennat. Bon, ce qui signifie qu'il ne se passera rien d'autre tant que nous serons en état d'urgence. Conséquence, la manière dont le déconfinement sera perçu tout à l'heure lorsqu'il sera annoncé et la façon dont il sera vécu à partir de lundi prochain, tout cela déterminera beaucoup plus le reste du quinquennat que toutes les envolées sur le jour d'après.
Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion, votre édito tous les matins dans la matinale d'Europe 1, juste avant 8h.
C'était l'opinion de Nicolas Bétou avec la Caisse d'épargne, mobilisée pour être utile aux entrepreneurs et à l'économie. Caisse d'épargne, vous être utile. Europe 1.
Et 8h approche justement le journal avec François Geffrier. Avant cela, la météo de Laurent Cabrol. Et bien sûr, Mathieu Noël avec son équipe et sauvage. A tout de suite.
Mathieu Béliard.
Très bon réveil à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1 et sur Europe 1 à 7h57. Il est là, Mathieu Noël avec son équipe et sauvage. Bonjour Mathieu.
Je suis là, bonjour Mathieu. Alors vous savez, je vous apprécie, ainsi que Laurent Cabrol. Je trouve qu'à la fois professionnellement et humainement, vous êtes des types extra. Mais voilà, je suis obligé quand même de vous informer que si vous persistez dans la voie de l'infotainment, qui est contractuellement mon domaine ici sur Europe 1, je vais être obligé de vous attaquer pour concurrence déloyale. Quand je pense que cet après-midi, je donne tout, mais je donne tout. Je reçois Leila Becker pour la nouvelle série événement de Damien Chazelle, le réalisateur de La La Land. Je prévois un numéro de claquette avec Jean-Philippe Ballas. Notre rubrique internationale sera consacrée au gouvernement belge qui demande à ses citoyens de manger plus de frites pour sauver les producteurs de pommes de terre. Vraiment, je me décarcasse pour qu'on passe un moment rieur. Tout ça pourquoi ? Ben pour constater que vous, le matin, avec votre pote Lolo, vous formez un duo comique irrésistible avec lequel il est impossible de rivaliser.
Bonjour Laurent.
Bonjour.
Je vous ai surpris.
Dites-moi, vous disiez les beaux jours de la semaine prochaine. Vous me faites
Non, j'ai dit avec les beaux jours qui reviennent en ce moment. Et vous savez quoi, j'étais sûr que vous alliez me reprendre. Avec les beaux jours, virgule, à partir de la semaine prochaine, virgule.
Non, avec les beaux jours, virgule, qui arrivent à partir d'aujourd'hui, virgule, qui vont cesser, virgule, pendant le congé de fin de semaine, point. Et la semaine prochaine, au moment du déconfinement, patatras, mauvais temps.
Alors, moi, ce que je vous propose, c'est que vous veniez directement faire le sketch dans mon émission. Est-ce que vous êtes chef? Vous pouvez me faire un prix, on se connaît depuis longtemps quand même.
Ah, mais moi, si je suis invité à l'équipe SMH, vous savez bien que je viens gratuitement.
Ah, oui, on s'était bien amusé quand vous étiez venu. Et Laurent devrait venir aussi.
Ben oui, Laurent, ça s'est pas fait encore? Ça s'est pas vu?
Non, c'est pas encore, ça s'est pas encore vu. Bah, alors, Laurent, dès qu'on déconfine, hop, Laurent dans l'équipe SMH.
Il faut que vous passiez dans l'équipe SMH de 16h à 18h, Laurent Cabrol. Vous allez bien vous amuser? Si, je vous le garantis. En attendant, alors ça, c'était des extraits façon sitcom de la météo de 6h. C'est celle où on s'échauffe avec Laurent, évidemment, le matin. Là, à 8h, on est prêt, non?
Sérieux.
C'est bon, Laurent Cabrol, la météo. Merci, Mathieu Noël.
On est sérieux. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que je vais vous dire là? Bah si, il va faire beau. Bah, il va faire beau. Alors voilà, j'ai rien à dire. On va faire beau, au revoir à tout à l'heure. Les températures entre 21 et 28 degrés. Franchement, c'est une journée idyllique à bien des égards, avec quelques passages nuageux d'altitude. Mais vraiment, c'est pour faire un peu d'ombre à Mathieu Noël. Mais sinon, tout va très bien. En ce qui concerne la journée de demain jeudi, ce sera très ensoleillé. Là aussi, demain vendredi, les nuages seront présents, notamment sur le littoral atlantique et surtout sur le Poitou-Charentes. Mais dans l'ensemble, nous allons vivre deux journées fort sympathiques. Samedi, ça commencera un petit peu à se gâter avec des orages sur la moitié nord. Et puis, alors là, dimanche, lundi et mardi seront vraiment des journées désagréables. Vraiment des journées avec des orages et surtout avec des températures qui vont plonger. Nous allons perdre 5, 6, parfois 10 degrés. Vous voyez que c'est vraiment le tout. On va changer complètement de système à partir de... Mais ça ne va pas durer à partir de samedi. Mais ça ne va pas durer, puisque dans le courant de la semaine prochaine, nous allons renouer avec un temps beaucoup plus agréable.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol. Je rallume mon micro et ça fonctionne. François Geffrier, a-t-il allumé le sien?
Absolument. Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Bonjour François, vous êtes sur Europe 1. Ensemble, on écoute le monde changer. Il est 8h sur la radio ouverte.